Chers amis, avant de débuter cet épisode, nous voulions remercier notre partenaire Cutvec. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet cutvec-kitgraphique.com pour découvrir tous les kits déco pour votre moto. Bonne écoute!
Le Cobra. C'est la base. Ça fait longtemps qu'on t'appelait plus comme ça.
Ouais, c'est un peu obsolète, quoi.
Mais non, tais-toi. Moi, ça m'a fait rêver pendant des années. Bon, alors, ton pédigré, David Ilmain. Grosso modo.
Bon à rien, mauvais à tout. Si on veut commencer. Le pédigré, il est simple. Hein. J'ai gagné dans tous les championnats sans être champion nulle part. Et en fait, tu peux le mettre un peu comme ça, vite fait.
Je dirais pas ça. Je dirais que il t'a manqué quelquefois un peu de réussite. La plus grosse réussite qui te manque, c'est un photoshooting avec Oxbow, une clavette, un championnat US perdu.
Ouais, mais en fait, avec le on parle d'il y a 21 ans. Donc, 20 ans après, si tu veux. Moi, je me battais contre Carmichael à cette époque-là. 20 ans après, Carmichael, à ce moment-là, dès qu'il a gagné son premier championnat en 2000, dans la catégorie Rennes, le championnat MX en 2000, quand il a fini un championnat, il a toujours gagné. D'accord ? Donc aujourd'hui, si tu me dis que si je ne m'étais pas blessé, j'aurais gagné le championnat, alors que Carmichael n'en a perdu aucun quand il en a fini, c'est presque prétentieux, si tu veux, de le dire.
Non, mais moi, t'étais prédisposé, c'était une belle saison.
Non, le problème, c'est que j'ai pas été assez bon par rapport à la concurrence que j'avais. Et il y a des légendes d'aujourd'hui qu'on pense qui sont des légendes, et que toi aussi, et les gens qui sont dans cette salle aussi, pensent que c'est des légendes, mais ils n'ont pas eu la concurrence que j'ai eu moi. Et ça, c'est le... si tu reviens, moi j'ai fait deux fois vice-champion de Supercross aux US. Je parle pas en Europe parce que je suis parti tellement tôt que...
T'avais pas tout fini.
J'aurais pu être champion du monde, je pense.
Largement.
Ouais.
Mais... C'est l'année où tu roulais avec le numéro 99.
C'était ma première année en 2000, ça.
Et t'avais fait des très belles courses.
Ouais, j'ai gagné 4 Grands Prix et j'étais jeune, j'avais 21 ans, quoi. Je pense que si j'avais continué dans cette voie, j'aurais sans doute été champion du monde une fois, même en restant 125 plus longtemps. Mais j'ai bâclé ma carrière européenne pour partir aux US.
Parce que t'avais ça dans la tête.
Voilà. Et quand je suis arrivé aux US, j'avais 22 ans et je me suis tapé McGrath, donc le meilleur pilote de Supercross de tous les temps. Et après, je me suis tapé le meilleur pilote tout court de l'histoire du sport.
Et le mauvais karma, en fait.
Voilà. Donc, c'est une histoire de concurrence. Parce que je pense, si tu me mets la concurrence de certains autres pilotes qui ont été champions, je pense que j'aurais été champion. Si tu vois, t'enlèves Carmichael, McGrath, je suis deux fois, quoi. Il y a des années... Ou des mecs, ils n'ont pas eu de McGrath et de Carmichael à battre.
Complet, tu vois, je suis d'accord avec toi.
Donc en fait, c'est ça. Et pour dire, moi, je dis que je n'ai pas été assez bon par rapport à la concurrence que j'étais, mais j'avais le niveau de champion avec une concurrence moindre.
Ok.
Et voilà.
Après, ma première vraie question, maintenant qu'on s'est un peu échauffé là, quelle est ta définition du talent ?
Ça, j'en ai parlé souvent. Moi, je pense que le talent, ça n'existe pas. C'est un truc qui...
Tu me fais vraiment plaisir. Ta réponse, elle me refait la vie.
Le talent, c'est... Le talent, c'est l'intelligence de comprendre un craft. En anglais, on dit craft. Quelque chose, un métier, si tu veux. C'est l'intelligence et la rapidité de comprendre un métier. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont comprendre plus rapidement que les autres. Mais c'est juste une question d'intelligence. Il faut être quand même, pour être bon, il faut être autodidacte quand tu es jeune. Tu vois, quand tu fais des répétitions de tennis, de golf, de moto et tout ça. Il faut quand même que tu aies un niveau d'intelligence pour réussir à comprendre, à faire les mouvements et ce qu'il faut faire pour être meilleur. Ça, je t'accorde que ça, on peut l'appeler le talent. Mais le talent, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est péjoratif. Quand tu dis que Stewart, par exemple, on parle de moto, parce que là, peut-être que ceux qui nous écoutent, c'est moto, on va parler moto. On dit Stewart, talent de fou. On dit Jet, talent de fou. Non, on dit qu'ils ont compris comment il fallait faire de la moto tôt et ils ont fait des répétitions et des répétitions. Et après, je parle d'autres exemples. Tiger Woods, il était golfeur avant de naître.
Fais-moi rêver, vas-y, j'adore ça.
Tiger Woods était golfeur avant de naître. Les sœurs Williams étaient joueuses de tennis avant de naître. Donc les parents, c'est l'éducation, hein. Les parents voulaient que leurs enfants fassent du golf ou du tennis. Donc ils ont
formaté.
Ils sont nés avec une raquette dans les mains ou un club de golf. Et c'est une histoire de répétition. Et Stewart, c'est le même. Stewart, il faisait de la moto du pied, oui, tous les soirs après l'école. Aux États-Unis, il finissait l'école à 2h30, 3h. Tous les jours, il faisait du pee-wee. Et il faisait des heures et des heures et des heures. Voilà. Et après, si tu sors un peu de ce microcosme moto qui est quand même très fermé d'esprit, si tu veux, pas très ouvert sur le reste des sports en général, tu vois que le talent, si tu es à moitié intelligent, c'est un truc qui se travaille, qui se crée.
C'est exactement la définition que je voulais entendre de ta part.
Voilà. Et si tu veux, tu peux regarder, tu vois, tu vas aller faire des recherches, et ceux qui vont monter ta vidéo, là, ils vont regarder une pub Nike. C'est des pubs avec des couveuses de petits, tu vois, donc à la naissance. Et ils disent que les stars ne sont pas nées, mais elles sont faites. D'accord ? Tu n'es pas star. Tu n'es pas...
Tu le deviens.
Tu le deviens. Et tu le deviens avec le travail et la répétition. Et après, quand tu vois que tu... Là, quand on fait de la moto, on parle à des jeunes qui vont à l'école le dimanche après-midi, qui s'en foutent de ce qu'il y a à l'extérieur. Et quand tu commences à grandir et tu commences à bouquiner, et il y a des mecs qui ont essayé de décrire ce qui était le talent. Et t'as des mecs qui disent, t'as cette loi des 10 000 heures. Je sais pas si t'as déjà entendu. Ouais. La loi des 10 000 heures, c'est que tu dis, si tu fais quelque chose pendant 10 000 heures,
t'es bon.
Tu
deviens bon.
T'es au top du top. D'accord ? Donc fais 10 000 heures divisé par 24, ça fait beaucoup de jours.
De jours. Non, voilà. Mais t'as raison.
Et moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est... Le talent, c'est l'intelligence de comprendre comment ça marche, la répétition des mouvements, donc en basket, le shoot, on va faire combien, en moto, de passer un virage 200 fois, de passer des hoops 500 fois, d'un côté, de l'autre, ce que je faisais moi. Hein.
Ouais.
Moi, je suis pas né à passer des hoops et j'étais un des meilleurs dedans, parce que j'ai fait que ça.
Mais je sais, parce
je
que
je faisais des allées, des retours, des allées, des retours, je faisais ça toutes les journées. Donc, l'intelligence de connaître, de comprendre comment ça marche, la répétition des mouvements, donc ça, c'est l'entraînement, et l'obsession de devenir le meilleur.
Et c'est parfait.
Donc, si tu ajoutes ces trois-là, tu as des pilotes talentueux. Mais ce n'est pas le talent.
C'est le travail.
C'est le travail.
À quel moment, toi, tu t'es dit, c'est là-bas que je veux aller? Parce que, alors, moi, je l'ai vécu de l'extérieur. Quand moi je suis arrivé un peu en Supercross, c'était déjà en 2,5 et t'avais déjà là-bas. Mais je me souviens très bien quand tu roulais avec la 125 Kawa, t'allais déjà faire des piges aux US, et tu faisais déjà des très belles. Les 3-4 courses que tu faisais, tu faisais déjà des belles courses que t'avais gagné avec la YAM au Coliseum non plus, je crois.
Non, c'était à Seattle, ouais.
Ouais, t'avais gagné avec la YAM, t'avais fait des trucs déjà bien. Donc en fait, t'avais déjà ça dans la tête depuis longtemps. Et je veux dire, quand tu avais fait le circuit à Foss, au bord de l'autoroute, c'était pas la Californie. Et pourtant, tu arrives à t'entraîner. Et en plein été, ça fait pas rêver. Parce que quand tu fais le mondial et que tu t'entraînes, parce que tu vas aller là-bas. Donc la détermination de là-bas, elle t'est arrivée quand?
Ben, en fait, indirectement, à cause de Bercy, si tu veux. Ou à cause ou grâce. Parce qu'en fait, les pilotes américains, le SX, moi, je suis venu à Bercy, j'avais 8 ans la première fois. Et je commençais vraiment la moto de cross. Et on venait tous les ans. Et tous les ans, on voyait ces Ricains, c'était des dieux, quoi, tu vois. Et si tu veux, ça faisait rêver, quoi. Ça faisait rêver. Et à un moment, moi, ça a été compliqué, quand même. Mes années cadets, mes années juniors. J'ai eu du mal à... J'étais pas super précoce. Contrairement à Sébastien Tortelli, par exemple, ou même Roncada, par exemple. On est de la même génération. Ils étaient un poil plus précoces que moi. C'était toujours le rêve. Le rêve d'un truc plus un fantasme sportif qu'une réalité à ce moment-là. On voulait aller aux US, on voulait aller aux US, mais tout le monde veut aller aux US. Mais aller aux US pour gagner, c'est très différent. Donc en fait, il a fallu attendre de savoir comment j'allais me développer et que ce rêve devienne une réalité ou potentiellement une réalité. Et donc beaucoup de travail, l'arrêt de l'école à 15 ans. Moi, j'ai arrêté l'école en seconde. Alors que je faisais du top 5 difficilement en junior, compliqué, très compliqué. Donc c'est là où les gens ils comprennent pas parce que ils voient la finalité, mais ils voient pas le processus pour y arriver quoi.
Ouais,
c'est ça le gros problème. Et j'ai eu la possibilité quand j'avais 18 ans d'aller aux US avec FMF, Danny Laporte, Francis Magnanou. Je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais j'ai atterri aux US et FMF m'a filé une moto.
C'était avec la Kawa, ça, c'était
pas vrai. C'était un Kawa et je suis arrivé là-bas et je ne connaissais rien, pas de téléphone portable, pas de Google Maps, rien là. Je ne savais pas où étaient les terrains, tu ne pouvais pas aller sur Internet. Donc là, compliqué pour trouver les terrains, pour aller rouler. Et genre 3 semaines après, j'étais engagé à Nîmes, l'ancien stade d'ailleurs. Et c'était un M96. C'était la course où ma grappe est arrivée avec les billets de $100 incrustés dans le casque. C'est cette course-là. Et là, je fais 4 en finale. Inconnu au bataillon, une moto même pas neuve, une 125 euros pourrie.
Magique.
Et voilà quoi. Et en fait, ce jour-là, quand tu y vas avec rien, mais rien. On a une moto pourrave. Et que. Tu vois que sans rien et que t'es pas loin, là ça te donne du...
Ouais, ça démultiplie les forces.
Ça te donne un peu de la motivation pour dire, ben, peut-être que j'ai peut-être une chance si je continue à grinder, quoi. Et moi, si tu veux, à cette époque-là, quand j'ai 18 ans, ça fait 3 ans que j'ai arrêté l'école, je gagne pas un sou, tu sais très bien ce que c'est, je gagne... Je crois, à l'élite, je dois gagner 1000 balles, mais en francs, hein, pas en euros. Hein. Et c'est le rêve, il commence à être... il peut être réel, mais il y a tellement de chemin à parcourir qu'il faut... Et là, je détestais, en fait. Ça, c'est une période de ma carrière où j'ai absolument détesté parce qu'on trimait comme des fous, on n'avait pas un rang. Et on s'entraînait comme des fous et on ne faisait pas de résultats. Et mon père, c'était un fou furieux. Et là, j'ai vraiment détesté. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de choix. Donc, et ça, c'est aussi, si on peut revenir au talent, quand tu n'as pas le choix, c'est où marche ou crève, c'est où tu réussis à gagner ta vie avec la moto, ou sinon tu rentres chez toi et tu vas faire des... aux US, on dit, on va tourner des hamburgers chez McDo, quoi.
Ouais, ben là, tu fais Dakar à Marseille, et voilà.
Ou tu vas faire... tu vas chez Manpower et tu fais de l'intérim, quoi.
Ouais.
Parce que t'as rien. Donc, si d'un côté, c'est tu crèves et t'as rien, tu crèves la dalle, et de l'autre côté, il y a peut-être la possibilité de gagner ta vie avec un sport, mais tu détestes... Là, à ce moment-là, je détestais m'entraîner, je détestais tout. Parce que c'était trop, trop, trop dur. Mais le problème, je n'avais pas de choix. Et donc, ajouté au le talent que je t'ai donné 3 trucs au talent. Et je pense que le 4, quand tu n'as aucune option, et ça, c'est pour ça que dans les sports populaires, il y a souvent des exceptions, que ce soit dans le golf ou dans le sport équestre ou les trucs, c'est les sports de riches. Mais... Dans les sports populaires, les mecs qui réussissent, c'est les mecs qui n'avaient rien, qui crevaient la dalle. Et si tu veux, Pour être talentueux, entre guillemets, il faut crever la dalle à un moment donné et ne pas avoir d'autre option que de réussir. Et c'est là où la troisième truc que je te disais que c'était l'obsession, l'obsession, elle va avec le fait que ben, tu n'as pas d'autre solution que de réussir.
Ouais, ouais. Parce que là, tu es en train de me dire qu'en fait, les journées à la Phare des Oliviers en plein été, quand c'était béton armé, tu ne prenais pas de plaisir. Et moi, on me disait, DV, il roule, alors ferme ta gueule et roule, je te jure.
Ouais, mais oui, mais tu étais obligé de passer par là pour progresser, parce que nous, on n'avait pas d'arrosage, les circuits étaient refaits une fois avant la course de la Ligue, et toute l'année, on roulait dans des ornières sèches pourries, et on fermait nos gueules, quoi. Maintenant, si le terrain n'est pas griffé, refait, arrosé la veille, personne ne va rouler, quoi.
Ah ben oui, non, mais t'as raison, c'est une autre clientèle, hein. Voilà. Ça n'a plus rien à voir.
Donc...
Alors, pour moi, tous les pilotes français champions du monde, tout terrain, il y a 80% qui sont passés dans les mains de Jackie, dont toi, moi aussi. Alors ça, pour moi, c'est un patrimoine qu'on a laissé au placard. C'est comme si en France, tu sais, tous les monuments, on les fermait et que tu n'avais pas le droit de les regarder. Et pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, en plus, tu sais, Raoult, tu connais Raoult, le docteur ?
Ah oui, oui, le Marseillais. Il
dit, ouais, en fait, on est des sachants. Lui, c'est un sachant. Moi, je ne m'en estime pas vraiment. Mais je pense que toi, tu es vraiment un sachant. Tu as développé plein de techniques. Tu es allé aux US. Moi, j'adore regarder tes analyses de course. Très pertinent. Je veux dire, des fois, tu étais là, tu faisais une analyse et je trouvais ça super intéressant. Parce que tu as toujours un truc, un détail qu'on n'a pas forcément vu. Bon, déjà, on n'est pas sur place, mais... Et du coup, ça fait évoluer beaucoup le sport. Alors moi, ça me manque ces derniers temps de ne pas avoir des petits commentaires. J'ai suivi tout ça de loin, tu vois, je me suis régalé sur plein de trucs. Mais aujourd'hui, je pense que tu as essayé de faire transmettre ton savoir. Parce que tu as travaillé un petit peu avec Craig, pas été top. Tu as travaillé un peu avec Marvin, mais je pense que c'était un mi-temps et... Il aurait fallu que tu aies plus Marvin avec toi, non ?
Ben Craig, c'était un mi-temps aussi, donc c'était juste un conseiller moto, tu vois ?
Ouais.
Et moi, si tu veux, moi, il faut que je fasse tout. Si je fais pas tout, je peux pas... Et je l'ai fait qu'une fois, en fait, qu'avec Dylan.
Top. Dylan, nickel. Alors, la phrase mythique qui restera dans ma peau... C'est quand il a gagné le premier coup que t'arrives derrière qu'on entend bien Mino, tu l'as fait. C'était magique ça.
Ouais. Ouais, c'est bien parce que. Bon, et j'ai bossé avec Gauthier aussi un peu.
Oui, au je début. Voulais en venir.
Voilà, un petit peu avec Gauthier. Mais j'étais jeune, en fait, dans le coaching. C'est vrai que ça n'a pas super bien marché avec certains d'autres. Marvin, je l'ai récupéré, il avait la trentaine. Trentaine, c'est compliqué de changer les choses, tu vois. Là, ouais, t'es ancré, ouais. T'es enraciné, tu vois. Un Olivier de 6 mois, pour le sortir, c'est facile. Un Olivier de 30 ans, pour le sortir. Pour la mini-pelle.
Oui, non, mais très bel exemple.
Tu comprends ? Et Dylan a été le seul, je pense qu'il était un peu le dos au mur, après sa première année aux US, et il avait besoin d'un... plus qu'un entraîneur en fait.
Ouais, quelqu'un un grand frère.
Voilà, qui le drivait et qui lui donnait un peu les solutions et les réponses aux questions qu'il avait, mais que ça soit en moto ou autre. Quelqu'un avec qui il ait confiance. Et je pense qu'il a eu confiance en moi très rapidement.
Ouais, ça c'est
bien. Et en fait, moi, j'étais pas trop chaud. Parce que Dylan, je le connaissais vite fait. Quand j'étais chez Bud en 2009, il était là. C'était un peu un petit con. Quand il était jeune, il était un peu infect. Et en fait, aux US, j'ai trouvé un mec plus ouvert, plus sympa, que je ne connaissais pas en fait. Et quand on s'est rapproché et qu'il m'a demandé un peu de l'aider, moi, je dis, écoute, je te prends 3 mois. Et au bout de 3 mois, non, c'était 2 mois et demi. Mi-septembre jusqu'au 1er décembre. J'ai dit, on travaille jusqu'au 1er décembre. Tu ne me payes pas. On voit comment ça marche. Tu fais ce que je te dis. Physique, moto, Tu vois, presque, je disais à quelle heure aller aux toilettes, quoi. Tu vois,
bien, tu vois, top.
Donc, on fait ça, ça va être c'est du 6 jours sur 7. Tu auras dimanche off, mais c'est du 6 jours sur 7. Tu vas pas rouler 6 jours sur 7, mais tu vas faire une activité. Moi, je fais un plan d'entraînement. Pour que ça marche, si au bout d'un mois, ça te saoule, on se barre. Mais si on arrive jusqu'au 1er décembre, ça te laisse un mois pour trouver quelqu'un d'autre pour t'aider avant la première course. Et on fait le point. Mais il faut que tu fasses ce que je te dise et que tu aies confiance en moi. Et après, on fait le point au 1er décembre. Après, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu un peu des accros parce que bon, je pense vraiment très différemment de... Et tu parlais de Jackie, là. Ma méthode, c'est moins bourrin que Jackie.
Oui.
C'est moins bourrin.
Jackie nous a donné des lignes.
Mais
après, on s'est adapté.
Voilà, mais dans la rigueur. Jackie, moi, ce qui m'a appris, c'est la rigueur de l'entraînement et que la priorité, c'était moto. C'est pas ta meuf, c'est pas tes parents. C'est si tu veux faire quelque chose, gagner ta vie, gagner un championnat, gagner des courses, la priorité, c'est la moto. Tu vois. Et quand la moto c'est fait, quand le physique c'est fait, tu fais ce que tu veux. Mais d'abord on fait la moto. Tu vois? Et ça c'est la rigueur que j'ai appris quand j'étais en équipe de France, j'avais 13-14 ans avec Jackie, donc on a travaillé peut-être 2 ans, mais là on ne comprenait pas trop parce qu'on était jeune. Ouais. Et en fait moi je me suis rapproché de Jackie avec Oxbow d'ailleurs en 2002, et après une année compliquée, et j'ai donné confiance à Jackie, j'ai dit ouais... Donc j'ai signé Oxbow et dans le deal, Jackie était inclus, tu vois, et pour être entraîneur. Et là, j'ai fait pareil. J'ai dit, ok, je le fais. Et je fais ce qu'il me dit. Je suis allé faire du rollerblade, tu vois, avec Jackie. Je suis allé faire des sorties de canoë-kayak. Je veux dire que, sans déconner...
Pour le Supercross US.
Il me faisait faire du rollerblade. Il me dit, non mais je détestais, tu peux pas savoir. Mais par contre, je râlais, mais je faisais. Et j'avais confiance en l'entraîneur. Et ça a fonctionné parce que j'ai gagné plein de courses et ça a fonctionné. Mais aujourd'hui...
Tu fais du rollerblade.
Non. Jackie, mais je suis beaucoup plus cool. Je suis très dur à l'entraînement parce que moi, c'est l'excellence à chaque fois. Si c'est pas excellent, c'est pas bon, on continue. D'accord ? Mais par contre, en ce qui est physique, tu me dis, moi je demande. Je dis, qu'est-ce que tu aimes faire en physique où ça te fait pas trop chier en fait ? C'est la course à pied ? C'est le vélo ? Est-ce que tu aimes faire la natation ? Qu'est-ce que c'est qui, tu vois ? Et il y a des mecs qui me disent, moi j'aime courir. Eh ben c'est bon, on va courir. moi je préfère le vélo. Et je dis, ok, on va faire du vélo. Donc, j'adapte par rapport au... Je veux pas dire à un pilote, on va faire du roller, s'il déteste. Tu vois, je veux quand même qu'il ait envie de s'entraîner.
Tu vois, alors moi, ce que j'ai vécu avec Jackie, c'est que forcément, j'ai fait exactement ce que tu as fait. Il m'a fait faire du roller avec Gauthier, du canoë-kayak. Mais en fait, j'arrivais de Hollande avec deux grottes où il me faisait travailler avec deux Mulmusters. C'était que du vélo. C'était horrible. Et j'avais besoin de trouver des sports ludiques. Alors, tu vois, c'est chiant, mais en fait, ça sortait tellement du contexte que limite, je prenais du plaisir à galérer avec ce truc de merde.
Ouais, et donc, mais moi, je détestais ça, je donne l'option aux athlètes de me dire ce qu'ils aiment faire en physique. Donc, de toute façon, il y aura de la salle de muscu, tu ne peux pas l'enlever. Il y aura des... Moi, je fais quand même des intervalles dans des montées en courant, mais c'est truc un peu... c'est très Rocky Balboa, ce que je fais.
Tu vois? Oui, mais de toute façon, t'as pas le choix.
Mais c'est pour... moi, j'aime pas que le travail physique soit ludique. Je veux que t'en chies pour que tu comprennes que tu travailles. Parce que le ludique, oui, ça t'entraîne.
Et tu l'apprécies moins.
Mais
t'en chies moins, t'as l'impression de moins en chier.
Tu travailles, ok, mais ça te forge pas le fait que t'en as chié. Donc, tu as pris conscience que tu travailles. Tu
vois? Ouais.
Et je suis beaucoup dans la répétition. Très dans la répétition du travail, dans le sens où.
Non, mais tu n'as pas le choix. Moi, je ne peux pas entraîner les jeunes. Aujourd'hui, tu me mets tous les Français d'enduro, il n'y en a pas un qui fait une journée avec moi. Parce que Tu sais, Jackie, il avait une recette. Et tu l'as dit. En fait, moi, j'ai travaillé avec Meyer pendant 7 ans avec le gros sac. Et en fait, on a travaillé, on l'a adapté, hein, comme tu as dit, toi. Exactement pareil. Mais sauf que la répétition. Nous, on a passé 2 jours sur le même virage. Et l'autre, il lâchait pas l'affaire. Mais tu vois, ça, en fait, c'est Jackie qui nous a mis un peu cet état d'esprit dedans. Mais ça, malheureusement, nos Français, ils l'ont perdu.
Ouais, mais le problème, Jackie, c'est le moule. Donc, tu rentres, tu vas dans un moule. Et aujourd'hui, le moule, c'est Baker en Floride. Tu rentres, c'est dans le moule, tu fais le programme de Baker. Tu fais le programme de Jackie. Moi, je te fais ton programme à la lettre. Parce que je veux que, quand même, tu ne te fasses pas chier un truc. Et que ça soit vraiment... pas de truc de bourrin. Tu travailles, tu fais ton truc et c'est fini. Et j'aime la répétition dans le sens où la même répétition. Les tours de vélo, je les fais faire les mêmes. Je veux qu'ils fassent les mêmes dans le même sens tout le temps. Si c'est les sorties de 3 heures, j'ai les sorties de 3 heures, j'ai les sorties de 2 heures, les sorties de 2 heures et demie. Je veux que tu fasses le même parcours. Parce que maintenant, on a les stats avec les montres, les machins. Je veux savoir. Quand je fais les courses à pied, moi j'aime bien faire tous les mois de la préparation. On fait des 10K, des courses de 10K pour voir le temps total. Donc si tu t'améliores, donc il s'améliore de toute façon, les temps baissent. Donc là, la confiance, l'athlète quand il fait la même chose, le même parcours, mais qu'il progresse et qu'il voit qu'il est moins fatigué et que les moyennes montent, alors que c'est le même tracé qu'il y a 3 mois, là, ça montre la confiance, ça montre que tu es prêt. Ça montre que tu es prêt à être meilleur en compétition. Donc moi, j'aime cette répétition-là parce que ça fonctionne avec la tête du pilote, la confiance. Je veux qu'il prenne conscience que son programme physique, il fonctionne et qu'il est plus fort. Si tu commences à faire... du kayak, du canoë, du roller, la course à pied, mais que tu fais tout le temps un peu des trucs différents, des parcours différents, tu fais du VTT, du vélo de course, la course à pied, tu changes les parcours. Oui, tu progresses, mais tu ne prends pas conscience que tu progresses.
Non, t'as raison.
Moi, je veux que... C'est pour ça qu'à Dylan, j'ai dit, tu me fais le même parcours.
Non, mais ton raisonnement, il est bon.
Tu vas faire 45 minutes tu vas faire 45 minutes de course à pied. Tu fais le même tracé tout le temps. Et après, quand à une semaine d'Anaheim ou à une semaine avant la première course, il a fait le même parcours en 38 minutes, là, il est gonflé à bloc. Là, il dit, putain,
j'y suis.
Tu vois ? Ouais. Mais si tu t'es éparpillé, t'as bossé, mais t'as pas pris conscience que ton travail paye. Et moi, je suis très basé là-dessus. Et c'est là où, quand je parle de répétition, quand tu travailles avec moi, c'est compliqué parce que c'est répétitif dans les exercices.
Ouais, mais t'as pas le choix.
Mais tout ça pour que l'athlète prenne confiance.
Jet Lawrence. En fait, on le voit aujourd'hui. Moi, je te dis de l'extérieur, on voit Jet Lawrence, tout le monde en parle comme un joyau. Alors, c'est un gars super talentueux, très, je pense, travailleur. En fait, il sort du lot aujourd'hui parce que je pense que le niveau technique des autres a un peu baissé. Ils font de la quantité, mais pas de la qualité. Et lui, en fait, il est resté sur un niveau de qualité technique. Et en plus, il fait de la quantité. Et aujourd'hui, ça se démarque. Mais on a eu des pilotes, Purcell ou je sais pas, toi, qui faisaient des gestes techniques. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement nivelé. Tu vas pas me dire que Barcia, des fois, il a les pieds qui traînent, il saute, il a un bras, qu'il est à la limite. Et lui, il a toujours les deux pieds sur lesquels pieds, il est propre.
En fait, Jet, on l'a vu qu'en motocross. Je pense que son pilotage coulé, technique, focus sur la technique de pilotage et tout, sur la 4,5 en motocross, c'est le cocktail parfait. D'accord ? Peut-être qu'il va... Tu vois, là, on est à quelques heures du Supercross de Paris. On ne l'a pas encore vu rouler en SX, sur des vrais SX, même si ce n'est pas un vrai SX. Mais je pense que ça ne va pas être aussi facile à SX parce qu'il va falloir amener de l'intensité. Et quand tu amènes de l'intensité,
vas vite à l'erreur.
Le timing, tu vas changer ton timing. Donc, il y aura peut-être une... Peut-être pas, hein, mais un temps d'adaptation à SX. Mais oui, c'est un cas d'école, Jet, dans le sens où... c'est un mec qui s'est... Ça, c'est... On parle de talent. Tu dis qu'il est talentueux. Mais ça, c'est un minot qui a regardé des cassettes vidéo de Stewart, de McGrath, de Stewart, de Windham, de pilotes qui ont du toucher technique, tu vois. Du Messi, du Ronaldinho, du... Tu vois, moi je parle par exemple un Dungy, c'est plus un Cristiano Ronaldo. Tu vois, c'est travail.
De Coster. C'est De Coster qu'il a fait.
Mais non, pas du tout.
Tu crois?
Mais non, De Coster, il a bon dos. Mais non, il a fait personne, De Coster.
Oui, c'est vrai, tu avais travaillé, c'est intéressant.
Non, mais De Coster, il a fait personne. Je veux dire, je vais peut-être.
Pourtant, il a donné une rigueur de travail.
Je vais peut-être me prendre les foudres.
Mais non.
Mais De Coster, il n'a fait personne. Zéro. Il n'a même pas découvert Dungy. C'est pas lui qui a découvert Dungy chez Suzuki.
C'est qui?
C'est un mec qui s'appelle Cole Grass, qui était chez les amateurs et qui a aidé Dungy à l'époque. Et c'est Cole Grass qui était le responsable des amateurs chez Suzuki, qui a poussé pour le mettre dans le camion à sa première course. Ça devait être en 2006-2007, je sais plus quelle année, chez Suzuki à Millville. D'ailleurs que Dungy, sa première course à Millville, c'était en 2006. Non, ça doit être 2007, je pense. Il doit faire 8 et 8, si je me rappelle bien. Bon, ça, j'ai de la mémoire, mais c'est pas lui qui... C'est, non, De Coster, il a fait personne. De Coster, il a acheté Carmichael, il a gagné avec Carmichael. Il était avec American Honda, il avait tous les meilleurs. Donc, c'est comme si demain, toi, t'entraînes Manchester City ou t'entraînes le PSG demain. Tu vas être champion de France, hein, toi.
Non, mais oui, je suis d'accord avec toi.
Donc, c'est l'aparté. Dungy, il s'est fait tout seul, il a dit qu'il travaillait comme un fou, et puis il est allé chez Aldon Baker, et ça a fonctionné pour lui, parce que c'est un mec, quand il rentre dans ce moule-là, c'est bien, mais je veux dire, voilà, quoi.
Tu vois, c'est intéressant, parce que moi...
Enfin, moi, c'est ma vision du truc. C'est un peu péjoratif, peut-être, mais je veux dire... On parlait de quoi? Tu m'as coupé un peu là, mais thanks.
Non, on parlait de Dungy. Que ouais. Tu sais, c'était un pilote qui a.
Non, on parlait de Jet, oui. Donc Jet, il est dans la. Il a regardé beaucoup de vidéos de mecs qui étaient techniques. Et tu vois que il pue la moto, on dit chez nous. C'est on pue, il pue le foot, ça veut dire il pue la moto. C'est un mec qui a été obsédé jeune à regarder des vidéos, comment il fallait faire, et après il allait essayer de le faire lui-même, comme nous on faisait. Moi j'ai mis des cassettes VHS de tous les Supercross US des années 90. Moi j'étais super fan de Bradshaw, les années Bradshaw, je les ai poncées les cassettes. Je regardais tout, ce qu'il faisait, comment il faisait, comment ça drivait les hoops. Tu vois par exemple. Le Parc des Princes avec JMB, quand il sautait, là, il atterrissait et puis cabrait pour avaler la bosse. Là. Non, mais ça, moi j'ai vu ça, mais j'étais. C'était en 91 ou 92. Hein, mais le mercredi d'après, j'ai trouvé ça et j'ai essayé de le faire.
Mais je sais, j'ai essayé de le faire. J'étais en 80, j'ai monté la cabane sur le chien.
Et quand ça commençait à dribbler les housses, on prenait les housses. Avec les vieux VHS, les magnétoscopes, on essayait de voir comme ça faisait. Et après, on essayait, on n'y arrivait pas, tu vois. Mais on essayait de s'amuser. Et Jet, c'est il a grandi avec... il a l'âge de ma fille, tu vois. Donc, il a 20 ans, ils sont de la même semaine. Donc, j'arrive à mettre en parallèle comment il a grandi, si tu vois. Donc, il a grandi... déjà avec vidéo, internet, et tout regarder, et avoir l'accessibilité de tous ces trucs. Et l'autre chose qui l'a beaucoup aidé, Jet, c'est son frère. Indirectement, quand tu as un frère qui a 4-5 ans de plus, et qui te tire, et que tu es le petit derrière, et que tu veux aller faire comme le grand frère, ça l'a aidé énormément.
Et du coup, toi, c'est personnel, hein. Tu te sentirais de partager ton savoir aux États-Unis avec des Français qui veulent venir et qui veulent ça, ou t'as plus du tout envie de... Ça t'a gonflé ce milieu-là et t'as plus envie de...
Ben, ça dépend. J'en discutais, là, il y a pas longtemps, enfin, ce matin. Depuis que j'ai arrêté la moto, j'ai jamais pris mon téléphone pour demander du boulot. Donc, si on a besoin, on m'appelle. Je dis oui ou non. Il y a pas mal de mecs qui m'appellent, hein, des pros où je dis non, des amateurs qui ont avec des parents qui ont de la monnaie et qui veulent faire ça. Amateurs, j'y touche pas. J'arrive pas à me transposer de travailler avec un petit qui est en 80 et l'amener, tu vois, 5-6 ans. J'ai du mal à me. Donc je dis non. Parce que je pense que c'est lancinant et c'est beaucoup de travail, c'est frustrant et tout ça. Tu vois, j'ai refusé Faulkner l'année dernière. Moi, il faut que ça m'excite, tu vois, le projet. Le projet m'excite. J'ai pas besoin d'argent. Donc, c'est vraiment strictement
motivation.
Le projet sportif. Et si, qu'est-ce que je peux faire avec le pilote, tu vois? J'ai rebossé avec Marvin. On a recommencé il y a 2 ans parce qu'il est venu en Californie et qu'il m'a dit, écoute, j'arrête avec Baker, et j'ai fait 100% de son truc. Si je fais plus 100% physique, moto, et que je suis présent et qu'on m'écoute, je ne fais pas. S'il y a quelqu'un qui me dit, oh, tu ne veux pas me donner des conseils, quelques conseils une fois par semaine sur
Internet. Oui, ça ne marche pas.
Non, zéro. C'est 100% ou pas. Et je pense que je suis intimidant parce que je dis ce que je pense et que les gens ont du mal de prendre le téléphone et m'appeler et me dire, à part les gens qui me connaissent, tu vois. Mais oui, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Moi, ça me plaît parce que je sais faire que ça. Je suis un bon à rien, mauvais à tout. Donc, il n'y a que ça que je sais faire.
Non, tu le fais, mais tu fais plein de trucs. Alors,
non, mais
moi, je t'ai côtoyé.
Professionnellement, c'est mon truc. Et c'est quelque chose que je tiens à cœur, si tu veux, quand je travaille. Et je veux que ça fonctionne, quoi.
Non, mais on s'est côtoyé un petit peu quand tu étais chez Bud et qu'il y avait Gauthier, parce que j'étais beaucoup avec Gauthier. En fait, ce qui m'avait énormément surpris, c'est ta soif de connaissances. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé de la préparation de ton fils. Tu me dis, j'ai pris des bouquins, je me suis renseigné. Mais tu vois, en fait, tu as une soif d'avoir de la connaissance. Tu n'es pas mauvais en tout. Au contraire, tu es bon. Tu as ton caractère. Forcément, tu froisses un peu des gens quand tu dis ce que tu penses. Et moi, je suis de l'extérieur, comme je t'ai dit. Moi, ça me manque de voir ces petits débriefs de à chaud des courses. Parce que je kiffais à mort, tu vois.
Ouais, parce que c'est avec le foot, c'est le sport que j'aime le mieux. Donc, et j'aime bien quand même analyser ce qui se passe, pourquoi, du comment. Et après, c'est plus facile quand tu baignes dedans depuis longtemps. Et que je suis peut-être le mec dans le milieu, sans doute, qui a regardé le plus de course depuis peut-être ces 10-15 dernières années dans le milieu. Les mecs sont sur la course, ils la regardent pas, la course, tu vois.
Si c'est bien passé, tu t'en fous parce que t'as gagné. Si ça s'est mal passé, t'as pas envie de l'avoir.
Non, mais les mecs ils sont dans le travail de la préparation, du coaching, des teams. Il y a personne qui, des fois, moi je me regarde les courses, mais 3 fois d'affilée, tu vois. 3 fois d'affilée. Et je les mets en mute. Je regarde les courses quand je regarde.
Que l'image.
Que l'image.
Et les commentaires, ils te polluent le truc.
Voilà. Moi, c'est image. Et avec Dylan, par exemple, quand je bossais, je regardais les courses, les siennes, obligatoirement. Je regardais ses courses de l'année d'avant. Tu vois, avant d'y aller. Surtout en cross, parce que c'est les mêmes terrains. Tu vois. J'ai regardé un peu comme il avait fait, il avait managé ses courses sur les terrains. Et je prenais des notes dans le sens où pour essayer de pas faire les mêmes erreurs d'une année à l'autre, parce que souvent ça arrive. Et puis aussi au point de vue des réglages moto. L'année d'avant, tu vois où ça allait pas trop. Avec le recul, avec ce qu'on a cette année, tu te dis, ah, peut-être que là ça va aller, ou il faudra faire ci et ça. Donc, il y a beaucoup de recherches vidéo. Comme en basket, comme en foot, les mecs, ils te font des... t'as pas idée, dans une équipe de foot, les séances vidéo qui se font, les mecs.
Mais oui, complet, complet.
Mais en basket, c'est pareil. Les mecs, c'est 48 minutes un match de basket. Les mecs, ils mettent 5 heures à regarder un match. Toutes les tactiques, les machins, les trucs. Et en moto, il n'y a pas ça. C'est un peu... on est un peu un sport de kermesse, quand même. Tu vois.
Non, c'est
donc, il faut amener un peu du professionnalisme dans l'entraînement, dans la recherche, tout ça.
Allez, une dernière question. Qu'est-ce que... Je te dis en français. Qu'est-ce qu'on a raté avec Mathieu Pluchot? Toi, tu l'as côtoyé plus que tout le monde. Tu l'as eu aux États-Unis.
La dernière fois, putain, j'ai passé du temps avec son frère il y a 3 jours. Mathieu Pluchot, c'est, je pense, l'éducation des parents, tu vois, dans le sens où je pense qu'il a arrêté la moto tôt, tu vois. Je pense que l'éducation est. C'est là où ça pas l'éducation normale et l'éducation avec la moto. Et c'est là où il y a quelque chose qui a coché. Et je pense qu'en moto pure, il était très bon. Mais à un moment donné, c'est ça qui cloche. Quand tu vois que les jeunes, en 60-80, ils sont très très bons et que ça pète et ça continue pas, c'est que là, les parents, ils sont présents tout le temps. Donc, c'est la faculté des parents de dealer avec un sportif et de prendre les bonnes décisions et surtout de faire progresser. Et des fois, il faut qu'il y ait des accros et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Mais c'est vrai que...
Parce que les gens ne s'en rappellent plus trop, mais il avait gagné Las Vegas, ce Supercross dans Stewart en 80.
Non, je crois pas, non.
Tu crois pas? Si, non. Il me semble. Il avait fait le Supercross à Vegas.
Je sais plus exactement, mais je pense pas
qu'on a une bonne mémoire.
Non, je pense pas, non, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout.
Ah ouais?
Non. Non, Mathieu, il roulait très très bien en 80, après il est passé en 125. Mais je pense que là, c'est ça que... C'est obligatoirement un truc entre parents et enfants qui cloche si ça continue pas. Si tu perds l'amour de la moto, si tu perds... la motivation, c'est compliqué. Et après, tu as des parents qui ne veulent pas, qui abdiquent un peu, ou sinon, c'est l'athlète qui dit oh, j'en ai marre, je vais arrêter. Tu vois?
Mais moi, je l'ai vécu parce qu'en fait, il a arrêté quand il s'entraînait avec nous. C'est pour ça que je te dis on a raté quelque chose, parce qu'il était en 80, ton père s'en occupait beaucoup, il venait un peu aux US avec toi.
Moi, il était venu chez moi en 2000, et je lui avais donné une moto, voilà.
Et après, tu vois, nous, en passage en 125, il s'est retrouvé un peu seul avec Machu, on s'entraînait tous les jours ensemble. Du coup, il est venu s'entraîner avec nous. Et moi, je l'ai vu comme ça. Machu, champion du monde, moi, champion d'Europe de Supercross. Et là, il prenait des branlées. Et c'était dur pour lui, parce qu'en 80, il dominait. Et là, il se retrouve en 125. Et en fait, là, ses parents lui ont dit, maintenant, il faut travailler. Il dit, mais moi, j'ai du talent. Ouais, mais il faut travailler. Ah ouais, non, mais là, et puis là, il a capitulé. Ouais, c'est dommage.
Mais c'est l'éducation des parents, et j'en vois aujourd'hui, hein, et je discute avec des parents et tout, et ils ont pas, ils le prennent à l'envers, quoi. Et ça, si ça continue comme ça, le minot, il va arrêter. Même s'ils sont champions maintenant, ils arrêteront dans 2-3 ans, tu les verras plus. Et il y en a, je connais pas les noms, mais... je suis sûr qu'il y a 3-4 ans, il y avait des minots en 65-80 qui gagnaient, qui font plus de moto maintenant. Hein.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
Je suis sûr qu'il y en a. Parce que ça, c'est l'éducation des parents et le suivi des parents qui n'a pas été bon.
Ouais, c'est top. Franchement, merci beaucoup. Je me suis régalé à parler avec toi.
Pas de souci.
J'ai appris beaucoup de choses.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de firstracing.com pour découvrir tout leur équipement moto. À bientôt.